Je réduis totalement ce qui se
passe. Et les compagnies au cas d'engage proposent un bilan liste de ce qui est précisément trouvé une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Capi et bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous proposent ce débat citoyen sur la fréquence de la paix. Dans l'exposé des motifs de cette loi fondamentale, donc je parle de la Constitution, les constituants de 2006 évoquent les raisons qui ont prévalu à l'élaboration de ces textes. Ils révèlent entre autres motivations le souci qui a animé le délégué de la classe politique et de la société civile, Force vive de la nation, réunie en Afrique du Sud dans le cadre du dialogue intercongolais en 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme d'élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Alors, au regard de la situation politique de l'heure en République démocratique du Congo, quel est votre avis sur le bilan de l'application de ces textes de la Constitution 10 ans après? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 898 315 pour votre intervention en direct. Jennifer Zabongo d'Aïto Standard, Jean-Noël Mokondo à la mise en onde, Pierre-Louis Lamégé à la réalisation de ce programme, et Jean-Louis Bocordon est présent cette émission sous la supervision de Martin Sebou-Jalvé. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguema.
Ensemble avec vous, on va faire le bilan de l'application de ces textes qui constituent en fait la loi fondamentale de notre pays. Richard, vous êtes à Kananga. Bonjour Richard.
Journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Vous avez la parole, Richard.
Ok, merci de la parole, monsieur le journaliste. Nous, par rapport à l'application de la Constitution depuis son adoption en 2006 jusqu'à ce jour, je ne peux que dire que l'application est biaisée par les dirigeants congolais. Parce que cette même Constitution a déterminé les missions que les institutions de la République doivent remplir à l'exercice de leurs fonctions. Simplement constater que toutes les missions dévolues aux institutions de la République n'ont pas été respectées conformément à la Constitution. Par rapport au cas sous examen de peuples congolais qui doivent choisir leurs dirigeants, nous avons constaté depuis les élections de 2006 jusqu'aux élections de 2011 que ce droit n'a pas été bien reconnu au peuple congolais. Bien que les élections ont été organisées, mais les soucis exprimés par le peuple de choisir librement ses dirigeants, ce souci-là n'a pas été aussi respecté par les pouvoirs, par les gens qui ont commencé à diriger ces pays depuis 2001. C'est dans ce sens-là que nous disons que les élections qui ont été organisées en 2006 et aussi en 2011 n'ont pas été des élections crédibles, démocratiques, transparentes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des fraudes massives enregistrées et reconnues par tout le monde. Alors que les soucis, la volonté politique de changer, au moins pour que nous puissions faire preuve de l'état des droits, on n'avait pas tenu compte de tout ça. Et actuellement aussi avec les processus de l'élection présidentielle qui sera organisée en cette année, mais au mois de novembre, vous voyez que c'est une organisation hypothétique. Pourquoi? Parce que les dirigeants actuels ne manifestent pas encore les soucis d'organiser cette élection-là. Ils veulent s'éterniser au pouvoir. Et ils ont fait du pouvoir un patrimoine, leur propre patrimoine, qu'ils ne peuvent pas céder aux autres. sur lesquels ils appliquent les principes d'incessabilité, d'imprescriptibilité et bien d'autres choses du genre. C'est pourquoi nous lançons un appel, parce que le peuple qui doit rester vigilant, que par rapport à cette élection de novembre de cette année, nous demandons tout simplement que l'élection ait lieu.
Voilà, merci beaucoup.
Parce que nous ne pouvons pas vivre toujours dans ce sens-là. Depuis 2006, 2011 et maintenant en 2016, nous n'avons jamais connu des élections du peuple. Mais cette même constitution aussi d'ailleurs, il y a certaines dispositions de la constitution qui n'ont pas jusqu'à présent été appliquées. C'est le cas par exemple de l'article 81 de la constitution sur la caisse de péréquation. Cet article-là n'a jamais été appliqué alors que la constitution totalise 10 ans. Il y a aussi l'article 16 de la constitution qui dit que la personne humaine est sacrée. Mais dès lors que la peine de mort est toujours maintenue dans ce pays, en tout cas cet article n'a pas sa raison d'être.
Merci.
Il y en a beaucoup d'articles que nous pouvons évoquer. Le cas aussi du Conseil d'État, il n'est pas mis en place. La Cour de cassation, même. Et la Cour constitutionnelle qui vient d'être mise en place, en tout cas, nous ne savons pas quelle est aussi sa position par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. Voilà un peu le bilan que nous pouvons tracer par rapport à l'application de la Constitution qui ne reflète pas sur. Et puis même, la Constitution n'a pas été respectée d'abord par ceux qui sont au pouvoir, qui ne veulent pas la faire respecter.
Voilà, merci beaucoup Richard. Pour vous, la Constitution n'a pas été respectée. Pour ne reprendre que vos propres mots, vous avez dit depuis son adoption en 2006, l'application est biaisée. Et cette même Constitution a tout de même défini les missions dévolues aux institutions de la République, mais jusqu'à maintenant, on sent comme s'il y a, si pas un piétement, il y a un télescopage, il y a également des responsabilités qui vont dans le sens de pouvoir violer ces dispositions fondamentales. Alors là, vous avez pris un seul aspect, l'aspect élection. En 2006-2011, vous avez dit que ces droits n'ont pas été reconnus au peuple comme il le fallait, ces droits civiques. Alors aujourd'hui, au regard de ce processus électoral, vous estimez que le processus lui-même, il est vraiment biaisé et que le souci est qu'exprime le peuple n'a pas été respecté et les pouvoirs publics en fait donc à sa volonté de ne pas vouloir organiser les élections et pourtant la population n'est juste que par ces élections démocratiques. Merci beaucoup. Bissimois, vous êtes à Bukavu. Bonjour Bissimois.
Oui, vraiment, c'est Bissimois. Bonjour JR, bonjour à tous les peuples congolais, surtout ceux-là qui militent pour le respect de la Constitution au Congo.
Voilà, alors vous avez suivi Richard qui nous a appelé des Kananga. Lui, il a parlé de l'aspect élection qui, en fait, le processus semble être un peu biaisé, selon ses propres mots. Alors, il y a également dans la Constitution les problèmes de la souveraineté, les problèmes de la forme de l'État, le problème de découpage territorial et tant d'autres problèmes. Alors, vous orientez votre débat par rapport à quoi?
Merci bien, JR. Vous savez que tout État sérieux, tout État responsable doit respecter sa constitution comme un vrai chrétien respecte la Bible, comme un vrai musulman respecte le Coran. Mais malheureusement, cela n'est pas le cas chez nous. Et le respect de la constitution dans un État responsable fait respect, mais aussi honneur à un État. Car elle est la loi suprême du pays que tout le monde doit observer sans condition aucune. Maintenant, quid du respect de la Constitution en République démocratique du Congo. Depuis 2006, que notre Constitution a été promulguée par le chef de l'État, nous constatons aujourd'hui avec beaucoup de regrets que, qu'on ait que cette Constitution, que cette Bible du pays soit respectée pour donner honneur à notre pays, mais aussi pour accorder ou favoriser une vie meilleure au peuple congolais, cela n'a jamais été le cas. Donc, vous allez vous souvenir et vous allez comprendre avec moi que tous les articles qui répondent aux aspirations du peuple congolais, tous les articles qui répondent aux attentes du peuple congolais n'ont jamais été respectés. Et là, je parle des articles pour ne pas les citer. L'article qui parle de la gratuité de l'éducation, l'article qui garantit au peuple congolais l'eau et l'électricité, la distribution ou le partage des ressources de la République, mais aussi beaucoup d'autres articles qui devait permettre au peuple congolais de se sentir à l'aise dans leur pays, de comprendre que leur pays est valablement gouverné par des dirigeants responsables, cela n'a jamais été le cas, monsieur le journaliste. Vous allez comprendre que notre constitution n'est respectée que les articles qui sont respectés sont les articles-là qui répondent aux attentes de ceux-là qui nous dirigent. C'est-à-dire, là où ils trouvent leurs intérêts, ce sont les petits articles qu'ils essayent de respecter. Mais dans son ensemble, toute la Constitution n'a jamais été respectée. Prenez, monsieur le journaliste, nous avons fait une certaine analyse dernièrement à Bukavu, juste au 10e anniversaire de notre Constitution. Le mouvement réveil des Indiens, tous les militants de ce mouvement, dont moi-même je suis militant, nous avons organisé une petite conférence d'évaluation, évaluer réellement si la Constitution de la République démocratique du Congo a déjà été respectée ou est respectée. Nous avons constaté amèrement que notre Constitution a toujours été violée du début jusqu'à la fin. Et c'est ainsi que nous avons tiré la sonnette d'alarme et surtout les enjeux de l'air. Nous avons organisé une activité que nous avons dénommée une minute citoyenne. Pendant 3 jours, où chaque citoyen congolais, surtout ceux qui vivent à Bukavu, aux citoyens congolais de siffler à chaque 12 heures pendant une minute, klaxonner, tambouriner, pour exiger le respect de notre constitution. Nous avons vivement félicité la population de Bukavu et surtout de toute la province qui avait respecté la consigne que nous leur avons donnée. Voilà, nous nous disons, en fait, aujourd'hui, si vous avez de faire beaucoup d'analyses, vous allez comprendre, monsieur le journaliste, que non, la constitution de la République, qui devait être le volant de tout un Congolais, du sommet à la base, et puis le chef de l'État qui est le garant de la patrie, c'est cette constitution qui devait être le volant pour tout Congolais, pour que notre pays soit respecté, pour que notre pays soit compté parmi les pays responsables. Mais aujourd'hui, si vous essayez de regarder, vous allez comprendre que non, notre constitution n'est pas respectée. Vous avez vu dernièrement, en 2011, comment nos amis du pouvoir constataient qu'ils n'avaient plus la confiance du peuple congolais, qui s'était permis de réviser notre constitution pour permettre au président de la République de gagner encore les élections. Et aujourd'hui, cette même constitution est encore menacée par le même pouvoir pour qu'elle soit révisée ou même changée. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de constater certains gens de la majorité présidentielle qui disent non, il faut carrément changer cette constitution pour qu'ils se retrouvent encore dans leurs intérêts politiques et égoïstes, malheureusement. C'est là que nous devons demander à tout Congolais épris de la bonne gouvernance, à tout Congolais épris de la démocratie, de militer pour sauvegarder notre constitution et permettre au peuple congolais d'aller aux élections dans les délais constitutionnels. Dans le cas contraire, nous serons en train d'être pris comme des aventuriers et des gens qui acclament ceux-là qui nous gouvernent au moment où tous les peuples congolais vivent dans la misère, tous les peuples congolais vivent dans la souffrance, mais il y a juste une petite classe des gens qui se tamponnent au et qui se permettent de faire souffrir tout un peuple.
Oui, Amos, parce que vous avez évoqué des dispositions qui n'ont pas été appliquées, mais de l'autre côté, il y a également des dispositions qui, visiblement, ont été appliquées de fond en comble. Je peux citer le cas de l'article parlant de la gratuité de l'enseignement. On peut aller encore plus loin avec, aujourd'hui, tant au niveau de l'exposé des motifs ou encore dans d'autres articles, on parle de la souveraineté de l'État. Nous avons un État souverain aujourd'hui.
Vous allez vous souvenir, je ne sais pas où est-ce qu'on fait les enseignants, parce que je mets quiconque au défi au niveau de toute la République, ce sont les parents qui continuent à payer la prime des enseignants. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé l'élément à Bukavu, où on a lancé des bombes lacrymogènes aux petits enfants de l'école primaire, même celle de la maternelle, qui réclamaient qu'il y ait gratuité de l'enseignement, comme cela est dit dans notre constitution. Dernièrement, nos amis du pouvoir s'étaient donné l'audace de nommer le commissaire spécial, chose qui ne se trouve nulle part dans notre constitution. C'est là que moi je ne peux pas comprendre ce que me dit M. Dier, que le pouvoir en place respecte la constitution.
Merci.
C'est une aberration parce que je ne sais pas quel article qu'ils vont respecter, à part les articles qui le permettent de se tramper au pouvoir au-delà des textes et au-delà du mandat reconnu par notre constitution.
Merci beaucoup, Amos Bissimoi, d'avoir appelé de Bukavu. Marc, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Marc.
Bonjour, M. Jean.
Vous avez la parole, Marc. Quel est votre avis?
Oui, merci de la parole que vous m'accordez. Je pense que les intervenants tout à l'heure, pour la plupart, ils ont eu raison dans leurs interventions qui sont pertinentes. Mais je voudrais simplement considérer un élément très pertinent à mon avis. C'est que la constitution de l'État, comme serait dit, c'est un pacte social. C'est un contrat social entre le gouvernement et le gouvernement. Dans la mesure où cet acte a été voté au référendum, c'est-à-dire que le peuple a adhéré massivement à ce que cette constitution soit mise en application pour le bien de notre pays. Mais il s'avère, monsieur Gérard, que malheureusement, les dirigeants qui sont à la tête de ce pays ne sont pas en mesure de pouvoir intégrer les vertus qu'incarne la loi fondamentale. Et vous savez, cette constitution est une résultante de l'accord de San City. L'accord de San City met fin à une guerre qui a déchiré ce pays pendant des années, pendant des décennies pratiquement. Vous avez été, je crois, dans ce pays, vous avez vu comment ça s'est passé avec la mise en place du gouvernement de 1+4 qui avait mis en l'ensemble les différents belligérants pour mettre fin à la guerre et donc faire en sorte que plus jamais, le même corps puisse produire le même effet. Raison pour laquelle, M. Gérard, vous êtes rendu compte que la Constitution a été rédigée, préparée, adoptée par le peuple, parce qu'il fallait mettre fin à toutes ces délits qui tendent à ce qu'une partie de la nation, un groupe de Congolais, puisse s'accaparer du pouvoir, l'exercer sans partage, en violation parfaite de la Constitution, sans laisser aux autres la possibilité d'exprimer leurs ambitions légitimes, éventuellement de venir proposer des projets alternatifs qui puissent promouvoir le progrès de notre pays. Raison pour laquelle, M. Gérard, on a limité le mandat du président de la République à 5 ans renouvelables une seule fois. C'est pour permettre justement à tous ceux qui peuvent avoir des projets alternatifs de venir les proposer à l'opinion après que vous ayez passé 10 ans à la tête de la nation. Parce qu'il n'y a pas d'homme indispensable. Contrairement à ce que certains courtisans ont eu à raconter à travers le média, il n'y a pas d'homme indispensable dans ce pays, comme à travers le monde. Et donc, si ceux qui sont au pouvoir pendant 10 ans n'ont pas été capables de faire quelque chose, mais il faut laisser la possibilité à un autre Congolais qui est pétri de compétences et de talents de lui proposer un projet alternatif. Mais les tentations qui sont en train d'être manifestées dans le sens de réviser la Constitution pour pérenniser un individu au pouvoir, eh bien, ce sont des causes qui risquent de nous ramener à l'arrière et donc de rompre le pacte social. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. Et donc, la possibilité que vous avez vue tout à l'heure, et bien, on l'a dit, aux partis politiques actuellement au pouvoir, de travailler avec le moyen de la République au profit des intérêts particuliers, et ce sont des violations.
Alors Marc, la grande question qui se dégage aujourd'hui, quelle est la responsabilité des uns et des autres, des partis politiques, de la population et des pouvoirs publics dans l'application de la Constitution? Parce que, à croire les uns et les autres, on a l'impression que ces textes n'ont pas été appliqués, en tout cas, selon l'esprit et la lettre du Constituant de 2006.
Oui, tout à fait. La responsabilité des uns des autres, nous pouvons les situer peut-être à un seul niveau. D'abord, c'est la responsabilité des gouvernants, parce que ce sont eux qui ont été élus et qui ont prêté serment, notamment pour le président de la République, qui ont prêté serment pour garantir le respect intégral de la Constitution dans toutes ses dispositions. Celui qui est le premier garant de la République, le garant de respect de loi, et celui donc qui a la responsabilité primordiale devant la nation, devant Dieu et devant le peuple, de pouvoir respecter la Constitution. Du moment que lui-même ne fait aucun effort pour essayer de veiller à ce que ces dispositions soient respectées, eh bien, en ce moment-là, le peuple, en principe, en tant que souverain primaire, devra s'assumer pour amener le responsable au travers de ses représentants qui sont par ailleurs à l'Assemblée nationale et au Sénat, de pouvoir réagir en réagissant comment par le mode de contrôle de l'action publique. En ce moment-ci, regardez par exemple le gouvernement dans sa configuration actuelle. La Constitution dit clairement que le gouvernement doit être composé de manière représentative, c'est-à-dire en tenant compte de l'équilibre politique ou représentatif. Mais quand vous regardez la composition de ce gouvernement, M. Gérard, qui est un élément, par ailleurs, qui peut vous permettre de comprendre, avoir la détermination du respect de la Constitution, c'est un gouvernement qui est composé quasiment à 60% de membres d'une seule province, pas d'une seule province, c'est pour lui on peut en compter 3 ou 4, qui s'accapare la part la plus importante. C'est comme si ailleurs il n'y avait pas de méritants, c'est comme si dans notre province, aujourd'hui nous en avons 26, il n'y a pas de gens capables de pouvoir réfléchir pour apporter leur pierre à l'issue de la nation. Vous voyez par exemple le problème de la parité homme-femme. La Constitution l'a bien dit. Il faut faire en sorte que dans le gouvernement, qu'on puisse, ou dans les différentes institutions, qu'on puisse avoir plus ou moins une représentation importante du quota de la femme. Vous savez, il a démontré dans le monde entier que les femmes dispensent des valeurs, et entre les femmes qui le méritent, dispensent des valeurs et des capacités beaucoup plus à même de pouvoir mettre au centre de leurs actions l'intérêt supérieur ou l'intérêt général. Contrairement aux hommes. Peut-être que cela aurait pu apporter. Voilà, comment l'Allemagne est géré aujourd'hui.
Voilà, Marc, merci beaucoup. Voilà, merci d'avoir appelé et surtout d'avoir contribué dans cette émission 080-1890-6315 pour votre intervention en direct.
Votre connexion Internet est trop lente? Radio-Capi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mails. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix. Vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio-Capi.net à votre service.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci, Trentor, de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen. Nous avons en ligne professeur André Mbata. Vous êtes avec nous, professeur ?
Oui, bonjour.
Voilà, 10 ans après, nous célébrons aujourd'hui donc la constitution de la République. Vous venez de suivre cette première série des auditeurs. En tout cas, il y a eu beaucoup d'appréhension et beaucoup de réflexions quant à ce qui concerne l'application ou l'applicabilité, si vous voulez, de ces textes qui constituent en fait la loi fondamentale de notre République. Il y a à boire et à manger. Les uns estiment que voilà, cette loi a été appliquée par rapport à l'application de certaines dispositions. D'autres, en tout cas la majorité, pensent que déjà il y a eu des problèmes. Cette loi a vraiment souffert d'application. Quel est votre avis, professeur?
Merci beaucoup pour la question. Je crois que la première chose à dire, c'est remercier Radio Okapi d'offrir aux auditeurs cette occasion importante de pouvoir discuter, échanger et en fait continuer la célébration du 10e anniversaire de la Constitution de la République. On aurait souhaité que cette émission soit organisée sur plusieurs chaînes de radio et de télévision de notre pays, parce que la célébration est effective. Du 10e anniversaire de notre conscience, c'est un événement important pour la République. J'ai suivi plusieurs intervenants et je dois dire que je suis tout à fait d'accord avec eux. L'idée générale qui émerge de toutes ces interventions est que tout le monde considère cette constitution comme étant le ciment de la nation, le pacte social. Donc, l'expression du consensus national, comme vous savez, la constitution a été adoptée par référendum populaire à une majorité écrasante d'environ 85%, il traduit donc l'âme de la nation. C'est elle qui nous unit. C'est elle qui fait la République. Toucher à la Constitution, ou s'amuser avec la Constitution, reviendrait en réalité à s'amuser avec la République. Donc, d'une façon générale, ce que j'ai retenu des différents intervenants, c'est cet attachement à notre Constitution. Ils l'ont tiré de paix, ils ont raison de dire. Et cette constitution, bien qu'étant la loi suprême de notre pays, bien qu'étant la loi fondamentale, a souffert dans son application. Ils ont raison d'épingler certaines dispositions qui n'ont pas été mises en œuvre. Ils ont raison de souligner l'importance d'autres dispositions qui contribuaient à l'établissement d'un état de droit vraiment démocratique dans notre pays. Donc, ce qui me réjouit de ces interventions, premièrement, donc, c'est ce constat général qui se dégage. Que tout le monde, finalement, tous les intervenants ont un attachement à notre Constitution. Et finalement, il y a un certain degré d'intériorisation de cette Constitution par la population qui considère que ce texte est le sien. Ce n'est pas un instrument étranger, ce n'est pas quelque chose qui nous a été imposé de l'extérieur, mais c'est quelque chose qui progressivement entre dans le mental de notre population et ça, c'est très important.
Alors, certains observateurs et autres acteurs politiques ne jurent que sur la révision substantielle, donc de certaines dispositions de cette constitution. Alors, qu'en pensez-vous? Parce qu'au regard du bilan qui est dressé par les uns ou encore par les autres, on se rend compte qu'on va tout droit vers cette révision, parce qu'il y a des écritures imparfaites dans ces textes.
Non, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on va tout droit vers la fraude. Et depuis que personnellement j'ai été intervenu dans ce débat il y a en 2013 au mois de juin, et je crois que les choses ont beaucoup évolué.
Il y a des personnes qui ont considéré la Constitution de la République comme un chiffon de papier. Il y en a d'autres qui disaient qu'ils réunissaient plusieurs signatures, des millions de signatures pour arriver à obtenir la révision par voie législative ou référendaire. Mais ça n'a pas été le cas. Je crois plutôt que la voie de la révision a été abandonnée. Et il y en avait qui parlaient même des dispositions étrangères de l'article 220 qui devaient être retouchées. Je crois qu'on a abandonné cette voie-là. Et on est plutôt dans une autre tendance. C'est des contournements de la Constitution et une tendance qui a peu de chances de réussir compte tenu de l'attachement actuel de notre population à cette Constitution, comme vous le sentez vous-même, à partir de toutes ces interventions qui viennent des différents coins de la République. Et je crois aussi, même lorsqu'on parle de révision, la question qu'on se pose souvent, c'est réviser pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on voulait réviser? Pour qui on voulait réviser? Et qu'est-ce qu'on voulait réviser? Tout ça est la question fondamentale. Et il me semble que cette voie-là, à entendre les responsables politiques, et ceux-là qui étaient accusés de vouloir aller à la révision, à les entendre, je crois que cette voie-là a été... on ne veut plus de cette voie-là de révision. Mais ce qui s'observe, ce sont des diverses manœuvres du fond constitutionnel auxquelles ça donne ceux qui veulent s'attacher au pouvoir par tous les moyens.
Alors, avant de repasser de l'autre côté du standard et accueillir les autres auditeurs qui viennent à peine de nous rejoindre, professeur, une question de curiosité, je crois que ça pourrait éclairer la lanterne des uns et des autres. Au regard de la situation politique de l'heure en République démocratique du Congo, c'est vrai, vous avez dressé un bilan. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement les dispositions qui n'ont pas été appliquées, contrairement, parce qu'il y a Amos qui a parlé tout à l'heure de découpage territorial, de péréquation, en fait, il y a la rétrocession, il y a tant d'autres dispositions qui n'ont pas été appliquées. On ne sait pas si vous avez peut-être un résumé ou peut-être nous faire une idée générale de toutes ces dispositions qui n'ont pas été appliquées tout au long de ces 10 ans.
Mais je vois que ces dispositions ont fait l'objet de certaines analyses du colloque international sur les questions de la Constitution, et que l'IDGPA, l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, que je dirige, a pu organiser du 18 et au 20 février 2016. Et je me réjouis qu'au niveau de, à l'intérieur du pays, à Bukavu, effectivement, il y a eu également des petites manifestations pour célébrer cette Constitution. Pour revenir directement à votre question, il y a bien sûr des dispositions qui n'ont pas été respectées. Et parmi ces dispositions, vous avez notamment ici, c'est pratiquement dans tous les textes qu'il y a des dispositions qui n'ont pas été appliquées. Il y a un intervenant qui a parlé des droits humains. Les droits humains, toutes les dispositions des droits humains, il y en a qui n'ont pas été adoptées. Quelqu'un a parlé du droit de l'éducation. Mais on pourrait en dire plus. Il y a le droit, les droits à l'environnement qui ne sont pas respectés. Et il y a par exemple la peine de mort, et on l'a évoqué, la peine de mort qui continue d'exister dans notre arsenal juridique, alors que personnellement j'avais introduit à l'époque une proposition de loi tendant à l'abolition de la peine de mort, et j'ai même suivi la Cour constitutionnelle pour qu'elle se prononce sur l'inconstitutionnalité de la peine de mort, rien n'a été fait. Il y a par exemple plusieurs dispositions qui touchent notamment au droit aux manifestations publiques. Par exemple, parce que maintenant nous sommes sous le régime d'information et non plus d'autorisation. Et vous constatez avec moi que cette disposition n'est pas appliquée, parce que plusieurs manifestations, surtout lorsqu'elles viennent des milieux des partis de l'opposition, elles sont interdites et restent soumises au régime d'autorisation. Il y a également le droit socio-économique, on n'en parle pas assez. Il n'y a pas que le droit civil et politique, il y a aussi les droits socio-économiques, le droit à l'emploi. Et combien de gens travaillent et combien de gens ont pu obtenir un travail malgré les statistiques qui sont fournies par le gouvernement qui vous dit qu'il y a 50 000 personnes qui ont trouvé l'emploi, mais les droits socio-économiques, le droit à l'eau, le droit à l'électricité, vous considérez tous ces cas de privation d'électricité dans la ville, ainsi de suite. Donc les droits socio-économiques, on n'en parle pas assez, ils n'ont pas été non plus totalement respectés. Et quelqu'un a parlé de tous ces articles qui concernent, par exemple, la séparation des pouvoirs. Vous savez, dans notre pays, c'est le chef du gouvernement, le premier ministre qui est le chef du gouvernement. Mais en réalité, lorsque vous entendez chaque ministre pour faire une action, même le premier ministre qui vous dit qu'il le fait sous l'instruction du président de la République, vous comprendrez que la règle de séparation des pouvoirs n'est plus respectée. et que ces ministres et les membres du gouvernement acceptent. On leur a donné le pouvoir, la Constitution leur a donné le pouvoir, mais ils préfèrent démissionner au profit du président de la République. Et qu'ils, je ne sais pas que le président de la République leur demande. Quelqu'un a évoqué aussi la question de la séparation des verticales de pouvoir. Les provinces ne jugent pas de l'autonomie consommée telle qu'elle était mentionnée dans la Constitution. Vous avez, on a également parlé de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cette indépendance judiciaire également pose des problèmes. Parce que la justice n'est pas totalement indépendante. On a parlé des institutions d'appui à la démocratie qui sont indépendantes. Et c'est la CENI, elle se soumet elle-même à la volonté des responsables politiques au lieu de trancher, au lieu d'exercer des compétences constitutionnelles. Bon, là, il y a une démission de la CENI. Il y a aussi des organes comme le CESAC qui doivent réglementer, réguler l'exercice de la presse dans notre pays. Donc, voilà, il y a beaucoup de dispositions qui n'ont pas été appliquées. Et ce que nous avons dit, c'est que nous avons fait un pas, mais nous devons en faire davantage. Et tout le monde, nous devons faire en sorte que la Constitution de la République soit respectée et le soit défendue, parce que c'est elle qui fait notre nation. Et on ne le dit pas assez. Lorsque vous regardez au chapitre 4 qui parle des droits des citoyens, le premier devoir plutôt des citoyens, avant même d'arriver au fameux article 64 qui demande aux citoyens de s'opposer à l'individu ou groupe d'individus qui prendraient le pouvoir par la force ou l'exercerait en violation des dispositions de la Constitution, il y a un article qui vient avant tout, c'est l'article 62. L'article 62 dit, prévoit que toute personne a le devoir de respecter la Constitution de la République. Voilà donc ce que je pouvais dire comme
réponse à des
gens qui, effectivement, demandaient qu'on s'élargisse davantage
tout à fait
sur les dispositions qui n'ont pas été respectées.
Voilà, professeur André Mbata, nous vous gardons, vous êtes constitutionnel dans la liste. On va repasser de l'autre côté du standard pour accueillir la deuxième série des auditeurs et nous entamons notre deuxième demi-heure de cette émission. Tous les jours à partir de 9h, l'équipe de Café Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, qui met des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Au Café Service, l'émission libre au service de la radio de la paix.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Voilà, Maître Sonville, vous nous avez rejoint. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Maître Sonville.
Bonjour, M. Gilles. Bonjour à tous les membres de la radio Fatih. Bonjour aussi à notre invité.
Voilà.
Par rapport à la thématique, M. Gilles, moi je dirais ceci, la Constitution est une arme sur laquelle devait reposer la pérennisation de la démocratie et la bonne gouvernance. Or, si nous entrons en profondeur, ces deux faits-là ne sont pas respectés. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'écueils dans l'applicabilité des postes de cette Constitution, de cette loi fondamentale. C'est-à-dire que l'applicabilité de ce droit fondamental a été mitigée. Mitigée pourquoi, M. Gilles ? Lorsqu'il s'agit de prescrire la Constitution, qui sont en faveur du pouvoir, et que ce prescrit s'applique sans autre forme de procès. Mais lorsque c'est du côté de la population, soit du côté de l'opposition, qui est en train de défendre les droits de la population, cette Constitution et ce prescrit ne sont pas d'applicabilité. C'est ce que nous avons constaté. Et si je le dis pourquoi ? Le contrat social prévu dans cette Constitution n'est pas respecté. Et pourquoi je dis que ce n'est pas respecté? Vous avez vu dans notre contrat social, on parle de la création d'emplois. Le gouvernement en a créé 11 par rapport même aux allocations fallacieuses du Premier ministre, puisque la création des emplois là n'est pas visible dans toutes les provinces. On a parlé de la gratuité de l'enseignement. Où est-ce que se trouve cette gratuité? Une question. Le partage de nos ressources équitablement, est-ce que le Congolais profite de ces ressources? Puisque nous voyons la pauvreté en train de s'endurcir dans le chef des Congolais. La liberté inhérente aux droits de l'homme, bafouée. Aujourd'hui, M. Gilles, les gens-là, les chefs de division au niveau de Maniema, qui ont observé la ville morte, sont menacés de radiation. Aujourd'hui, est-ce que ces droits-là, il est respecté, il n'est pas respecté.
Oui, maître Sonville. C'est vrai, d'un côté, comme vous l'avez dit, il y a des dispositions qui n'ont pas été respectées, mais si nous regardons aussi de l'autre, Il y a, par exemple, le cas du découpage territorial. Il y a également le 26 provinces que nous avons aujourd'hui, qu'on n'avait pas l'autre autrefois.
Oui, je me souviens, monsieur Gilles, dans mes allégations. Je l'ai dit que lorsque ça profite au pouvoir, on a tout cela. Mais si c'est pour l'intérêt de la population, selon de mon applicabilité, puisque si on avait accéléré le découpage, c'est pour punir le Moïse Katumbi au niveau du Katumbi.
Non,
on devait fragiliser son pouvoir.
Oui, maître Sauville.
Au-delà de ça, monsieur Gilles.
Oui, maître Sauville.
Au-delà de ça, monsieur Gilles.
Oui, maître Sauville, quand vous le dites comme ça, qu'on devait fragiliser Moïse Katumbi, est-ce que vous en avez des preuves? Parce qu'on sait que. C'est vrai, bon, il n'y a, a pas eu que Moïse à la tête de province. Il y a eu également d'autres, j'ai pu citer Bamanissa qui était à Kisangani, Ngoï Kasaji au Kasaï, pour ne pas aller plus loin, Alexis Kandé au Kasaï occidental. La liste n'est pas exhaustive.
Si je le dis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a même un monument qui a été érigé au niveau de Carrefour, réclamant l'unité de l'ancienne province du Katanga. Et ça a été apprécié par tous les politiciens du Katanga. Hormis cela, M. Gilles, il y a des arrestations arbitraires. Il n'y a pas longtemps qu'on a arrêté M. Fayulu, quand de même il est député national, sans respect de la Constitution qui prévoit l'immunité à tout député national. Il y a maintenant la confiscation de la chaîne nationale qui ne peut que la RTNC. Aujourd'hui, si je suis la RTNC, je peux même tomber malade. Peut-être mourir par rapport aux allégations qui sont prononcées par les journalistes du secteur national qui fonctionnent avec l'argent du contribuable de Congolais. Mais au-delà de
voilà,
ça, le garant de la nation,
oui,
c'est le chef de l'État.
Oui, là aussi.
Ce n'est pas celui aussi du chef de l'État.
Oui, là aussi,
la Constitution.
Oui, maître Sauville, là aussi, voilà, il va quand même de notre devoir de pouvoir aussi placer un mot par respect de nos confrères, hein, de la RTNC quand même.
Non, je le dis à titre de preuve. Nous suivons le plus le solution dans le Congo, notre pays, dans ce moment.
Oui, mais c'est ça qu'avait proposé une mise en œuvre. Et la procédure a été suivie, je crois. En tout cas, à un certain moment, cela a été respecté, la suspension, mais je ne sais pas aujourd'hui. Je crois que c'est ça qui devait nous fixer quand est-ce qu'il avait levé la mesure. Donc, pour vous, observant un peu quelques faits, vous avez finalement conclu qu'on n'a pas respecté la Constitution
et la liberté.
Est mitigée. Merci beaucoup, maître Sauville, d'avoir appelé de Lubumbashi. Jules, vous êtes à son honneur. Bonjour, Jules. Et bienvenue, la parole aux auditeurs. Jules, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Jules. On va lire quelques messages des auditeurs. Voilà, il est temps peut-être de revenir à vous. Professeur André Mbakar, vous êtes avec nous?
Je suis avec vous.
Voilà, quelle est la réaction par rapport à ce que vous venez de suivre tout à l'heure?
Bon, mais les réactions sont tout à fait normales. Lorsque l'intervenant de tout à l'heure, il faut que le cas de l'ancien gouverneur Moïse Katumbi et l'honorable Martin Fayulu arrêtés et empêchés, et le cas de la RCNC qui devait être l'église au milieu du village comme le cas mais qui l'état a réalisé, ce sont effectivement des cas qui posent des problèmes, tout comme d'autres cas d'arrestation et de détention arbitraire. Donc il faut dire que la Constitution de la République, elle a souffert pendant ces 10 ans, mais Dieu merci. Et ce qui est réjouissant, c'est cet intérêt manifeste de la population. Et finalement, tout le monde comprend que ce texte, sans le respect de ce texte, notre nation risque de mourir plutôt à ce que quelqu'un d'autre, d'aucuns ont appelé l'inanition de la nation. Et en réalité, la vie de la nation, comme vous l'entendez de tous ces intervenants, la vie de notre peuple, la vie de la République, la vie de la nation dépend du respect strict du texte constitutionnel. Qui est le fondement de cette nation.
Voilà, alors professeur, quand nous jetons un regard un peu en arrière, devoir de mémoire, on sait que la constitution du 24 juin 1967, donc qui en fait régissait la Deuxième République, a été révisée, si mes calculs sont bons, en tout cas sous réserve de spécialistes en droit, plus de 5 fois. La première fois c'était le 17 avril 70, la deuxième fois 74, la troisième fois 78, et la quatrième révision est intervenue en 80 sous l'ordonnance loi numéro 80/007, et la cinquième fois c'est le 15 novembre 1980, et puis finalement la sixième fois le 31 décembre 82 avec l'ordonnance loi numéro 82/004. Alors certains observateurs estiment que plusieurs révisions peuvent entraîner la mort d'une constitution, et cela aussi peut entraîner finalement l'arrêt d'un processus démocratique dans un pays.
Tout à fait exact. C'est exact. Et lorsque vous parlez de la Constitution du 24 juin 1967, il faut dire que c'est la deuxième Constitution de notre pays qui avait été adoptée par référendum. La première Constitution adoptée par référendum, c'était celle du 1er août 1964, qui n'avait fait qu'une année et qui avait cédé face au coup d'État de M. Mobutu. Donc, lorsque vous parlez de la Constitution de 1967, en fait, vous êtes beaucoup plus aimable. Il a été révisé plus de 10 fois. Ce n'est pas 6. Et certaines révisions, comme vous le constatez vous-même, certaines révisions n'en étaient pas. Il y a des révisions qui n'étaient pas des révisions. Et ici, il faut faire une différence entre ce qu'on appelle révision constitutionnelle et changement constitutionnel. Une révision constitutionnelle apporte en fait des retouches mineures au texte constitutionnel en laissant l'ordre constitutionnel dans son ensemble intact. Mais lorsqu'on change le régime politique, lorsque tout change, comme ce que vous évoquez, le texte de 74, il n'était pas une révision. Le texte de 74, qui fait de Mobutu l'institution suprême, ou qui fait plutôt du inter le parti État, il n'avait rien à voir avec le texte de 67. Le texte de 74, c'était une constitution nouvelle qui instituait une dictature, contrairement au texte de 67, et plusieurs auteurs estiment que ce n'était pas une révision constitutionnelle du tout. Alors là, je suis d'accord avec vous et plusieurs autres personnes, c'est que à force de toucher la Constitution, à force de banaliser la Constitution, on finit par dégénérer, et en ce qui concerne le régime, finit par dégénérer dans l'autoritarisme et dans la dictature. Et c'est ce qui est arrivé avec M. Mobutu. Donc la Constitution, ça ne se révise pas n'importe comment. Banaliser la Constitution finit, en fin de compte, par vous conduire à l'établissement des régimes autoritaires, des régimes fondés sur le patrimonialisme et des régimes qui finissent par devenir finalement des monarchies présidentielles.
Alors, parce que nous avons parlé de la révision, on va écouter également Jules qui nous a raison de son Lolo et Franck à Kinshasa. Jules, vous êtes avec nous?
Oui, monsieur Jules, je suis avec vous.
Oui, vous avez la parole, Jules.
Ouais, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Juste vu que je voulais réagir à ces 10 ans de notre constitution. Je voulais dire ceci. Le bilan est bien négatif. Pourquoi je le dis que c'est vraiment bien négatif? Je prends un exemple. Moi, je suis au Songolo dans les faubourgs. Lorsqu'on nous trompe avec la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui même, je vous parle, il y a des enfants de l'école primaire qui viennent d'être retournés à la maison à cause des frais scolaires. Alors, cette gratuité qu'on nous chante et qu'on nous trompe en tout moment, ça se fait dans quelle planète? Monsieur le journaliste, il y a un adage qui dit chez nous, les Bakongo, ou à vous, la Vioka, venez les Bakobaki. Ça veut dire quoi? Quand vous trompez, essayez de passer directement. Quand vous dormez, on vous découvre. Donc, ça, c'est pour les gens qui sont au pouvoir, cet adage ici. Donc, cela signifie que tout ce qu'ils fabriquent, tout le mensonge qu'ils fabriquent à propos de cette fameuse constitution, la population lui les garde avec des gros et des grands yeux.
Mais oui, mais Jules, cette population ne fait aucun effort pour se former de manière citoyenne et aussi connaître le contenu du fond en comble, parce que nous avons suivi l'actualité, disons, lors de cette célébration, et il y a certaines personnes à qui on a posé la question sur la Constitution, ils disent, bon, la Constitution, c'est une affaire des politiques, c'est une affaire des politiciens. Donc c'est comme pour dire, il y a une catégorie de population qui ne s'en occupe même pas.
C'était de la Constitution. C'était votre oui ou non. Moi, je suis dans les faubourgs ici. Il y a les femmes, les mamans, nos pauvres, les vieilles femmes qui viennent dans les faubourgs du village et nous viennent fatiguer. Et ils vous disent, pour eux, ils savent qu'un oui ou un non, c'est un monsieur. Donc, il faut voter monsieur oui. Donc, il faut voter monsieur non. Parce qu'on n'a pas expliqué à la population c'est quoi exactement. Et jusqu'à preuve du contraire. Il y a des gens qui ne savent pas expliquer ce qui est dans cette constitution. Et c'est quoi la constitution? Parce qu'on n'a pas expliqué, on n'a pas eu le temps d'expliquer aux gens. Ils ont pris les gens à pied levé, voter oui ou voter non. Moi, je suis à bord de la route. J'ai vu les vieilles femmes avec sa canne, les vieux papas avec sa canne. Donc, il faut voter monsieur oui. Ils ne savent pas. C'est comme ça. Donc, ils veulent ça comme ça. Bon, vous savez, il y a des choses bizarres. Prenez par exemple l'eau et l'électricité. C'est grave, ici dans le faubourg.
Donc, pour nous, le fait de mentir la population à tout moment, la population de l'époque de Mobutu, ce n'est pas la population d'aujourd'hui. Donc, ceux qui sont au pouvoir doivent être interpellés.
Merci beaucoup.
Ce qu'ils veulent faire là. Ce qu'ils font là.
Merci beaucoup, Jules, d'avoir appelé de Songololo au Congo central. Franck, vous êtes à Kinshasa. Merci d'être avec nous et bienvenue la parole aux auditeurs, Franck.
Bonjour, monsieur Gère, bonjour au prof. Je suis en train de vous suivre avec attention. Si je dois me référer à ce que Richard de Kananga, Amos de Bukavu, Marc de Kine, Maître Sanjura Lubumbashi et Jules de Songololo, m'appuyant fondamentalement à ce que le prof avait de dire, je trouve que si nous devons partir de la Constitution comme l'âme de notre nation, comme le dénominateur commun de nos textes légaux ou les textes de référence, on ne peut pas se prononcer ici par complaisance. Monsieur le journaliste, vous savez que même les grandes nations, elles se sont développées, c'est parce que les lois qui les régissent sont au-dessus de tout le monde. Et quand une loi de la nation ou de la République doit s'interpréter selon des sauts d'humeur ou selon des calculs politiciens, là, ça fauche tout. Et les profs venaient d'énumérer la gamme des dispositions constitutionnelles qui n'ont jamais été appliquées. Et je crois qu'il faut le dire clairement qu'il manque seulement un peu de volonté politique pour appliquer de manière loyale l'intégralité de ces textes, ou si on l'interprète, c'est seulement à base d'un sophisme. Donc on voit quelle est la disposition qui profite à tel groupe ou à tel regroupement politique, et on cherche à argumenter là-dessus. Mais là, on se rend compte que tel article, telle disposition constitutionnelle ne permet pas autant d'ouverture par rapport à tel ou tel autre regroupement politique, on cherche à les dénaturer ou bien à l'interpréter selon des choix d'humeur. Mais c'est pas ça, parce que une loi de la République, tant qu'elle est votée, elle doit s'interpréter de manière objective pour le bien de tous. Est-ce qu'on nous dira vraiment que toutes les lois sont correctement appliquées là où nous savons qu'il y a des milliers de Congolais qui n'ont pas d'accès à l'emploi? Il y a des milliers d'enfants congolais qui n'ont pas d'accès à l'éducation. Il y a même des milliers ou des millions de citoyens congolais qui n'ont pas d'accès à l'énergie, que ce soit de l'eau, que ce soit l'électricité. Mais c'est question de voir comment ça se passe ici. C'est comme si ces lois-là sont interprétées pour 5% des Congolais. Et si on se reconnaît du côté de ces 5%, on dit oui, ça va. Mais la majorité est en train de se prononcer ici. Personnellement, je trouve que c'est, il y a vraiment une application mitigée. Donc, il y a des articles qui peuvent être appliqués de manière souple, mais il y a des gammes d'articles qui n'ont jamais été appliqués. Et on doit se poser des questions pourquoi. Parce que un texte doit être correctement appliqué par rapport aux circonstances dans lesquelles il devait être appliqué. Mais ce n'est pas le cas chez nous, monsieur le journaliste.
Voilà, merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé. Maître Dominique, vous êtes en Boujimaï. Bonjour, Maître Dominique.
Bonjour, monsieur Gier.
Vous avez la parole. Quel est votre avis, Maître Dominique?
Oui, par rapport à l'application de la Constitution, monsieur Gier, nous pouvons dire que si elle était une femme, l'on dirait qu'elle est violée et violentée. Elle est violentée, elle est violée parce que tout ce que notre gouvernement veut faire, il ne le fait que dans son propre intérêt, et il tourne et retourne la Constitution juste pour son intérêt individuel. Vous avez vu comment on a, avec quelle rapidité on a révisé la Constitution en 2011. Et vous voyez aujourd'hui combien on ne veut pas même que les gens fassent référence à l'article 64. Or, les constituants originaires, en mettant cela, c'était un garde-fou pour que l'on ne viole pas la Constitution. Alors, aujourd'hui, tout ce que les constituants est en train, le gouvernement est en train de faire, en rien, il ne respecte la Constitution. Le matin, il peut la violer. Lorsque vous lui dites que non, mais tu as violé telle Constitution, s'il y retourne, c'est que c'est pour son intérêt. S'il retourne à la Constitution, c'est pour son intérêt, pas l'intérêt de la population. Il arrive même que, monsieur J.R., nous avons aujourd'hui des députés qui ont quitté leur parti politique au vu et su de tout le monde. Personne ne peut faire référence à ça pour dire que non, voilà, ils sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Aujourd'hui, nous voyons comment on poursuit les opposants qui ont quitté les membres du G7. ces symptômes-là de Pharaon, hein, qui l'on est en train de les poursuivre, ces gens-là, hier, eux aussi, quand ils étaient au pouvoir, ils étaient en train de
faire ça. Oui, Maître Dominique, on a l'impression qu'on présente aujourd'hui les opposants comme en victime expiatoire, pour qu'ils ne soient pas responsables ou qu'ils se dédouanent de leur responsabilité aussi, hein, parce que la loi de parti politique demande à ce que la population soit sensibilisée. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a un déficit de communication, un déficit d'information du côté de la population dans ce qui concerne la loi fondamentale. C'est vrai, d'aucuns ne savent même pas que cette loi a été révisée. C'était une première tentative. Pour d'autres, ils disent, ben voilà, le pouvoir public a essayé une première tentative. Si jamais cela marchait, il y aura une deuxième tentative, une troisième, et nous risquons de tomber comme ce qu'a fait la Deuxième République. La Deuxième République dit fois la révision constitutionnelle, et puis au vu aussi de tout le monde.
Oui, tu as raison, mais regarde ce qu'il y a. Une fois que vous commencez à en parler, vous commencez à parler de la Constitution, les gouvernements interprètent cela comme une opposition inutile, comme même une rébellion. Mais lorsque, par exemple, eux veulent faire quelque chose, j'ai suivi une chaîne nationale, j'ai suivi à la télévision, en train de vilipender des gens à tout bout de champ. Mais quand vous voulez le faire, on va recourir à cette condition.
Merci beaucoup, monsieur de Vaudry.
Je sais qu'il y a un principe de droit qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. C'est une grosse erreur quand on nous dit ça au Congo, parce que nous regardons ce.
Merci, Dominique.
La loi, lorsqu'on dit que nul n'est censé, il faudra la publier.
Merci beaucoup, Maître Dominique. On va prendre Maître Laurent avec, avant de revenir à vous, professeur Mbata, constitutionnaliste, et vous avez eu organisé un colloque par rapport à ces 10 ans d'existence de la Constitution. On en sera un peu en conclusion. Maître Laurent, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à Kinshasa.
Oui, bonjour à tous vos auditeurs. Je suis effectivement à Kinshasa.
Oui, vous avez la parole, Maître Laurent. Quel est votre avis?
Non, moi, je voudrais d'abord commencer par féliciter le professeur Mbata pour la cérémonie que le colloque qu'il est en train d'organiser sur la décennie de notre constitution adoptée depuis 2006. Bon, alors, rapidement, je voulais dire ceci. Si aujourd'hui M. Kabila est au pouvoir, c'est sur base de cette constitution qu'aujourd'hui ils sont en train de pouvoir décrier. Comment est-il possible que dans un État où nous avons beaucoup d'intellectuels, vous prêtez seulement régulièrement deux fois, en 2006 et en 2011, sur la même constitution, agira de la respecter. Et qu'aujourd'hui, à la fin du deuxième mandat, vous tirez sur cette dernière en disant qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises, mais le Congo doit être un pays émergent et que donc le frein du développement et facteur de notre pays repose sur la constitution. Moi, je pense que non. La constitution, 10 ans, c'est peu, mais à la fois, c'est beaucoup. Je pense que nous devons être honnêtes. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché par rapport à l'absence de la volonté politique de la majorité au pouvoir. Par exemple, on sélectionne ce qui est applicable parce que dans la constitution, nous avons les dispositions d'application et les dispositions de respect. Les dispositions d'application, c'est quoi? Par exemple, l'installation de la Cour de cassation. Jusqu'à présent, on ne demande pas de. C'est une décision qui impose au pouvoir public de pouvoir mettre en place cette juridiction qui va beaucoup nous aider. On ne veut pas la mettre pour des intérêts politiques.
Merci. Parce que, oui, merci beaucoup.
Non, je voudrais finir la discussion rapidement parce que on a vers l'avant. Le chef de l'État qui est le garant de la nation et de cette constitution doit impérativement la
respecter.
Sinon, on ne peut pas. Oui. Et ce n'est pas bon pour notre pays.
Merci beaucoup, Maître Laurent. Dommage, on ne peut pas prendre la Maurice qui vient à peine. Il est temps pour nous peut-être de conclure avec notre invité. Professeur Mbata, vous êtes en ligne. Alors là, il se pose encore un autre problème, c'est le problème d'interprétation du texte. Tout à l'heure, il faut parler de l'interprétation à base de ce sophisme. Si c'est à l'avantage de la majorité, on applique telle disposition. Si c'est à l'avantage de l'opposition, l'opposition continue à brandir. Voilà. Quel est le commentaire pour vous? Et je crois qu'on va aller là-bas vers la conclusion.
Oui, l'interprétation pose justement un problème. Parce que les gens, c'est une interprétation qui revient, qui est rattachée à l'application tout aussi sélective de la Constitution. Mmh. Je vais vous donner un exemple, par exemple, d'erreur d'interprétation, parce que très souvent, on va à l'interprétation littérale. Prenez l'article 70, par exemple. L'article 70, son deuxième alinéa. L'article prévoit dans son deuxième alinéa que le président, en fonction, le président de la République reste en fonction non pas jusqu'à l'élection d'un nouveau président, mais plutôt jusqu'à l'installation d'un président élu. Et il faut voir comment c'est interprété dans les médias. C'est comme si le président pouvait rester en fonction pendant 20 ans. Non, c'est comme aux États-Unis. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation. Mais on ne peut installer que quelqu'un qui a déjà été élu. Donc voilà des cas de mauvaise interprétation de la Constitution et tout le monde croit qu'il peut pouvoir interpréter la Constitution.
Oui, mais l'article, il y a un article qui évoque également les dispositions en rapport avec la vacance à la tête de l'État. Si on arrivait au 20 novembre, il n'y a pas élection, c'est vrai. Est-ce que tout revient au Sénat, par exemple?
Bon, moi, je ne peux pas, je voudrais être optimiste. Je voudrais être optimiste en sachant que les élections se dérouleront dans les délais constitutionnels. Je ne veux pas tomber sur cette hypothèse-là. Nous avons le temps, j'espère que la CENI va se ressaisir, parce que la CENI n'est pas au-dessus de la Constitution. La Constitution oblige la CENI donc d'organiser les élections présidentielles dans le délai constitutionnel. Je ne voudrais pas être négatif. J'espère, on a le temps, la CENI va se ressaisir et nous aurons des élections dans les délais constitutionnels.
Avec
pour revenir à la Constitution,
oui.
L'article permet de cette Constitution qui voit que la RDC, notre pays, est un état de droit. Ce qu'il faut dire, c'est qu'un état de droit, c'est d'abord un état de la Constitution. Un état qui respecte la Constitution. Un état qui se soucie de la Constitution. Là où je remercie, que je le disais tout à l'heure, pourquoi remercier Radio Kapi? Mais vous me permettez de célébrer. On aurait pu avoir ces émissions sur toutes nos chaînes, et spécifiquement sur la chaîne publique, qui faisait la voix du peuple au milieu du village. On aurait pu continuer ce débat. Parce qu'imaginez-vous, mon cher ami, est-ce que vous pouvez comprendre un seul instant qu'il n'y a aucune manifestation de la part du gouvernement pour célébrer la Constitution? Est-ce que vous pouvez comprendre, par exemple, que les catholiques passent un jour de Noël sans aller à la messe? Cinquième messe de Noël? Non. Cette Constitution, c'est donc notre mère. C'est elle qui est à la base de la naissance de l'État. Et si la Constitution, c'est comme si on était en train de jouer sa propre mère.
Merci beaucoup, professeur André Mbata, vous êtes constitutionnaliste, d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt.
Merci.
Merci à vous tous ceux qui avez participé à cet échange citoyen. Nous disons également merci à Jean-Noël Mokondo qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierreux et la Belgique. Dilipé Zabongonda a assuré le standard avec les appels des auditeurs. Cette émission vous a été coordonnée et présentée par Julien Nguébo sous la supervision de Martin Sebou-Jalvé. On se retrouve demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. À très bientôt.